Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre l'appel de Ban Ki-moon à combattre l'extrémisme mondial, le renforcement de l'aide alimentaire du PAM en Ukraine et la mobilisation de l'ONU contre les maladies tropicales négligées. Dans le dossier, la réaction des Nations Unies après le meurtre d'un enfant albinos en Tanzanie. Et puis, retour sur l'appel humanitaire de 2 milliards de dollars en faveur du Sahel. On commence avec le secrétaire général Ban Ki-moon qui est à Washington, la capitale américaine, où il a participé ce matin au sommet de la Maison-Blanche sur la lutte contre l'extrémisme violent. À cette occasion, Ban Ki-moon a appelé à combattre cette menace mondiale via une approche globale et multidimensionnelle. Le point avec Isabelle Dupuis.
Depuis Washington, le secrétaire général a défini quatre impératifs devant guider les efforts communs pour lutter contre l'extrémisme violent, à commencer par l'importance de s'attaquer à ses racines et de rechercher les motivations de ses auteurs. Ban Ki-moon a aussi jugé nécessaire d'inscrire la lutte contre l'extrémisme dans une dynamique de promotion des droits de l'homme, de concevoir une stratégie collective à l'échelle mondiale et d'adopter une approche multidimensionnelle. Les missiles peuvent tuer les terroristes, mais la bonne gouvernance tue le terrorisme, a affirmé le secrétaire général. Ban Ki-moon a averti que l'émergence d'une nouvelle génération de groupes terroristes transnationaux, comme Daesh et Boko Haram, représente une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. Ces extrémistes, a-t-il dénoncé, poursuivent une stratégie délibérément conçue pour choquer par l'horreur, en utilisant des décapitations, des immolations et des snuff movies pour polariser, terroriser et diviser. Ban Ki-moon a aussi fait observer que la grande majorité de leurs victimes sont des musulmans et que les femmes et les filles sont soumises aux abus les plus effroyables et systématiques.
Le Programme alimentaire mondial a intensifié son opération d'urgence dans l'est de l'Ukraine afin de nourrir près de 190 000 personnes vulnérables, déplacées ou prises au piège par les combats. Selon le PAM, la situation humanitaire s'est détériorée ces derniers mois à Donetsk et Luhansk. Les civils fuient leurs maisons ou se réfugient chez des membres de leur famille, dans des abris, des appartements de location et même dans des wagons. On estime à plus d'un million le nombre de personnes déplacées depuis le début de la crise. Alors que fournit le PAM à ces personnes ? La réponse d'Elisabeth Birce, porte-parole du PAM.
Nous allons leur distribuer des paquets alimentaires et ces paquets alimentaires sont valables pour une personne pendant un mois. Ils contiennent du riz, de l'huile, des pâtes, de la farine, des aliments en conserve et ce sont des rations qui vont être distribuées dans les zones où il y a des marchés qui ne sont pas opérationnels, qui sont fermés par intermittence et où les personnes ont des difficultés à s'approvisionner. Le PAM pourra aussi procéder là où il y a des marchés qui fonctionnent à des distributions de coupons alimentaires à près de 80 000 personnes, en particulier bien sûr les personnes âgées et les femmes qui sont seules à la tête d'une famille. Et en apportant des coupons alimentaires, cela nous permet d'instiller de l'argent dans l'économie et dans les endroits où les réfugiés sont accueillis.
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de publier un nouveau rapport sur l'importance de l'investissement dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Selon l'OMS, une contribution aussi petite que 0,1% des dépenses de santé des pays à revenus faibles et intermédiaires permettrait de venir à bout des 17 maladies classées dans cette catégorie et d'améliorer ainsi le bien-être de plus d'un milliard et demi de personnes dans le monde en évitant des décès, des cécités, des défigurements et d'autres handicaps permanents. On écoute le docteur Jean Janin, il est expert en maladies tropicales négligées à l'OMS.
C'est la première fois qu'au fond, on a essayé de chiffrer un petit peu les investissements qui seraient nécessaires pour arriver au bout. Une partie du rapport de cette année avait pour but de fournir un certain nombre d'éléments économiques pour la réflexion des donateurs et des gens qui nous supportent. La première chose, c'est toujours bien sûr d'encourager les pays dits endémiques, c'est-à-dire dans lesquels ces maladies font le plus de dégâts, d'essayer d'investir plus. Le but est également de fournir à la communauté internationale un ordre de grandeur des sommes qui pourraient être générées pour pouvoir accomplir tout ça.
L'actualité africaine à présent, c'est d'abord la Côte d'Ivoire avec la tenue d'une réunion d'information et d'échange sur les élections avec les partis politiques au siège de l'ONUCI, la mission des Nations Unies. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise sur pied de la plateforme d'échange avec les acteurs politiques et la société civile sur le processus électoral ivoirien. Le compte rendu de Jean-Noël Kouamé d'ONUCI FM.
Maître Alain Victoire, porte-parole de la CEI, a indiqué aux représentants des partis politiques à cette rencontre que la CEI travaille pour des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, a mis l'accent sur le rôle de sensibilisation et d'information des partis politiques.
Vous avez un rôle de sensibilisation et d'information dans l'avancement du processus électoral au sein de vos partis politiques. Le défi que nous tous nous sommes engagés à relever, c'est de faire en sorte que les élections de 2015 soient des élections paisibles, libres, transparentes et démocratiques. Le Conseil de sécurité a demandé à toutes les parties prenantes ivoiriennes de faciliter la création de conditions propices à la tenue d'une élection libre, régulière, transparente et ouverte à tous.
Les chargés des élections et représentants des partis politiques à cette rencontre ont insisté sur la sécurité en vue du bon déroulement des élections en Côte d'Ivoire.
Et puis, élection toujours en RDC avec la mobilisation croissante de la mission des Nations Unies pour financer le processus électoral dont le coût devrait dépasser 1 milliard de dollars. Les explications de Charles Bambara, il est porte-parole intérimaire de la MONUSCO.
Nous allons une fois de plus voir dans quelle mesure nous pourrons mobiliser la communauté internationale pour apporter ce qui manque le plus, c'est-à-dire l'argent pour financer donc ces élections. Nous allons donc contribuer à la mobilisation des fonds pour cette élection. Vous savez que les agences des Nations Unies, le PNUD et d'autres agences sont très mobilisées autour du financement de cette élection. Monsieur Martin Kobler, le chef de la mission de la MONUSCO, rencontre régulièrement les ambassadeurs accrédités ici auprès de la RDC en séance de travail pour évoquer cela. Et je crois que de plus en plus, ces rencontres vont monter en puissance pour que les fonds promis par les uns et par les autres puissent être disponibles pour le déroulement de ces élections.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme condamne l'horrible meurtre en Tanzanie de Yohana Bahati, un garçon d'un an atteint d'albinisme. Son corps mutilé a été retrouvé le 17 février. Zaid Rad Al-Hussein a appelé les autorités tanzaniennes à traduire les coupables en justice, mais aussi à renforcer la protection des albinos, notamment à l'approche des élections générales. Florence Westgaard a joint Cécile Pouy, elle est porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
Dimanche dernier, un groupe de 5 hommes est arrivé dans la maison de ce petit bébé. Il se trouve en compagnie de sa maman et du reste de sa famille. Il a été kidnappé et son corps a été retrouvé atrocement mutilé 2 jours plus tard, puisqu'on lui a coupé les jambes et les bras. C'est à nouveau un meurtre d'une personne atteinte d'albinisme. Ce n'est malheureusement pas la première fois en Tanzanie. Et nous nous insurgeons contre ces violences répétées contre les personnes atteintes d'albinisme.
Oui, et donc... Est-ce qu'on sait pourquoi ces attaques sur les albinos, quelles sont les raisons exactement ?
Alors, il y a en effet des attaques et des discriminations contre ces personnes, notamment à des fins rituelles. Certaines personnes semblent penser, en Tanzanie, mais aussi dans d'autres pays, que l'utilisation des parties du corps de ces personnes puisse porter bonheur ou favoriser la chance. Et donc, pour des raisons de magie noire, ils se font kidnapper et mutiler, alors parfois tuer également. C'est une tendance que nous observons depuis plusieurs années. Il y a eu pas moins de 75 morts depuis l'an 2000 en Tanzanie de personnes atteintes d'albinisme dans le cadre de ces attaques. Et l'on voit depuis le début de l'année une recrudescence de ces crimes.
Et donc, quel est le message du haut commissaire sur cette affaire ?
Mais qu'il faut absolument mettre fin à l'impunité pour ces crimes. Car malheureusement, beaucoup de ces crimes ne sont pas rapportés, ne sont pas punis. Donc les violences continuent. Il faut que le gouvernement tanzanien augmente et renforce les mesures de protection. Et puis bien sûr, aider les victimes pour leur offrir des soins médicaux et psychologiques, des mesures de réhabilitation et de réparation. Et enfin, il faut sensibiliser le public en Tanzanie et ailleurs pour leur faire comprendre que ces gens ont des droits comme tout à chacun et qu'ils doivent être défendus.
Oui, c'est ça, qu'il n'y ait pas de discrimination contre eux, n'est-ce pas ?
Absolument, il faut éviter toute discrimination, il faut aider les gens à comprendre ce qu'est l'albinisme et ne pas discriminer les personnes sur cette base et encore moins les assassiner sur cette base.
Oui, et est-ce qu'il faut peut-être des messages de sensibilisation, justement? Qu'est-ce qui peut être fait pour essayer de diminuer ça?
Oui, alors absolument. Des campagnes de sensibilisation sont très, très importantes parce qu'on entend parler des gens qui nous disent que pour eux, ce sont des fantômes, ces gens, alors qu'en fait, ce sont simplement des êtres humains qui ont une pigmentation de la peau différente, de manière totalement indépendante de leur volonté, bien entendu. Il faut sensibiliser aussi à leur vulnérabilité qui est extrême. Par exemple, on sait que l'espérance de vie des personnes atteintes d'albinisme est plus courte, tout simplement en l'absence d'informations, parce qu'ils sont plus exposés au risque de cancer et qu'ils n'ont parfois même pas accès à de la crème solaire ou à des chapeaux, par exemple. Il faut que dans les écoles, il y ait des campagnes pour faire comprendre qu'il ne faut pas les harceler. Il faut favoriser leur intégration sociale. Beaucoup d'entre eux se retrouvent extrêmement démunis et vivent dans la pauvreté, ne peuvent pas aller à l'école en raison de ces discriminations. Ils vivent cachés et terrifiés par la crainte de se faire attaquer à tout moment. Donc il est très important de sensibiliser le public et de mobiliser toutes les bonnes volontés pour mieux faire comprendre leurs conditions et bien sûr aider à les protéger et traduire les responsables de ces crimes en justice.
Les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont lancé il y a quelques jours à New York un appel humanitaire pour le Sahel de 2 milliards de dollars. L'appel vise à augmenter l'aide aux 20 millions de personnes touchées par le changement climatique et l'aggravation des conflits dans la région. Robert Pieper est coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel, des propos recueillis par Christina Silvero.
Malheureusement, nous commençons en 2015 avec des défis en deux dimensions. La première est cette dimension de crise chronique qui nous suit d'un an à l'autre dans la région du Sahel. C'est des crises autour de l'insécurité alimentaire. Nous avons au-dessus de 20 millions de personnes en insécurité alimentaire. C'est des crises autour de la malnutrition aiguë. Presque 6 millions d'enfants mal nourris aigus. Et c'est autour des risques des épidémies. Nous voyons déjà une quinzaine de millions de personnes qui sont à risque d'épidémie dans la région du Sahel. En même temps, malheureusement, depuis, disons, 12 mois, la situation sécuritaire s'est aggravée beaucoup. Nous nous trouvons aujourd'hui avec une hausse au-dessus de 1 million de nouveaux réfugiés, de nouveaux déplacés depuis janvier 2014. 2,8 millions de personnes aujourd'hui qui fuient l'insécurité, qui fuient la violence dans les pays de la République centrafricaine, dans la région du nord-est de la Nigeria, au nord du Mali et même au Darfour.
Alors justement, quelles sont les répercussions pour les besoins humanitaires?
Les besoins sont très élevés. Les implications sont très importantes pour des enfants qui ont besoin d'un traitement pour la malnutrition aiguë. Et là, on parle 1,5 million d'enfants qui sont dans la catégorie la plus sévère de la malnutrition aiguë. Le même pour certaines catégories de personnes dans le plus sévère en insécurité alimentaire ou bien qui sont en risque d'épidémie. Nous avons le choléra, le fièvre jaune dans la région qui a pris à peu près 1000 vies l'année dernière. Pour les réfugiés, pour les déplacés, l'implication est aussi très importante. Non seulement pour les réfugiés même, pour les déplacés même, qui ont besoin bien sûr d'un peu de tout aujourd'hui, mais aussi pour les communautés qui sont leurs hôtes. Le sud du Niger, la région de Diffa, à peu près 50% de cette population sont eux-mêmes en insécurité alimentaire. Et ils se trouvent aujourd'hui avec 40% de leur population maintenant sont des nouveaux arrivés du Nigeria.
Alors, quels sont les défis justement pour apporter cette aide humanitaire?
Pour moi, il y a deux défis principaux qui me préoccupent. Premièrement, assurer que lorsque nous faisons notre travail à court terme, que le travail à moyen, à long terme est bien lancé et qu'il y a des ressources derrière ces efforts. Et deuxièmement, une grande préoccupation aujourd'hui, c'est qu'il y a suffisamment de stabilité, de sécurité pour que ces réformes puissent être vues et que nous ne perdons pas tout le bon travail qui a été achevé déjà.
Alors, l'OCHA, le Bureau de la coordination humanitaire de l'ONU, a lancé un appel de près de 2 milliards de dollars pour la région du Sahel. Pourquoi est-il si important de les obtenir et quels sont les risques si vous n'arrivez pas justement à lever ces fonds?
Oui, c'est des grands chiffres, certainement 2 milliards de dollars. Mais derrière ces chiffres sont des besoins très élevés. Nous ciblons à peu près 10 millions de personnes en insécurité alimentaire avec cet argent. Nous ciblons 3,2 millions d'enfants avec la malnutrition aiguë. Nous ciblons 2,8 millions de réfugiés, de déplacés, à peu près 10 millions de personnes à risque d'épidémie. Le risque, si on n'arrive pas, bien sûr, à soutenir ces ménages, sont très graves. Des enfants qui sont malnourris aigus, et en particulier dans la catégorie le plus sévère, sont certainement à risque de mourir. Je n'exagère pas. Donc, les implications de notre faillite sont très graves.
Voilà, et c'est avec Robert Pieper, le coordonnateur pour le Sahel, que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur internet à radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.